Europe 1. Bonjour, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Soyez les bienvenus au cœur de l'histoire. Nous avons laissé un Shakespeare tourmenté par les questions de l'amour et de la nature féminine. Il a quitté sa ville natale, il laissant sa femme et ses enfants pour travailler comme acteur et auteur dramatique à Londres. N'ayant rien qui nous permette d'identifier rigoureusement une ou plusieurs liaisons qui auraient pu inspirer ces personnages féminins, nous voilà contraints de plonger dans ces pièces. Seconde partie, le bal des Mégères. Sa célèbre comédie, La Mégère apprivoisée, immortalisée au cinéma par Richard Burton et Liz Taylor, en dit long sur la manière shakespearienne de traiter la féminité. L'argument de la pièce donne le ton. Un homme demande la main d'une femme réputée immariable. Elle a un caractère épouvantable et veut toujours avoir le dernier mot. Pour la mater, il va devoir la séquestrer et l'affamer. La mégère s'appelle Katrina. Elle n'a qu'un seul tort. Elle n'entend pas se soumettre aux diktats d'un homme. Notons que, si aujourd'hui la revendication est naturelle, à l'époque, elle constitue un délit. Écrite vers 1594 par un Shakespeare trentenaire, cette comédie serait-elle une manière d'exorciser une rancune tenace contre sa propre femme? Si rancune il y a, les années n'apaiseront rien. En 1611, peu avant sa retraite, Shakespeare publie Macbeth, occasion pour lui de présenter au public le personnage féminin le plus sordide de son œuvre. Au cœur de l'intrigue, une femme, Lady Macbeth, se livre à une véritable séance de magie noire pour inciter son mari à tuer le roi Duncan et à usurper sa couronne. Shakespeare, dans cette pièce, va donc charger une femme d'assumer l'entière responsabilité du meurtre commis par son mari. Ah, les femmes, que n'ont-elles à porter depuis le péché originel ? Le monologue de Lady Macbeth pourrait être, à quelques détails près, celui d'Ève sur le point de croquer la pomme. En attribuant à une femme la responsabilité de ce pacte avec l'enfer, Shakespeare raye d'un trait de plume toute cette belle tradition chrétienne qui, depuis la venue du Christ, faisait de la femme un doux mélange de compassion et de don de soi. La femme se voit en outre attribuer les fonctions masculines. Lors du banquet où apparaissent plus loin dans la pièce les fantômes des victimes massacrées par Macbeth, sa femme se tourne vers lui et le voyant livide, lui lance venimeuse. « Es-tu un homme ?» Mais tout cela ne nous avance guère sur la vie privée de Shakespeare. De nombreuses années séparent Macbeth du poème « Vénus et Adonis ». La femme y apparaît dans les deux cas, sinon comme prédatrice, du moins comme dominatrice. Ses attributs sexuels y figurent comme dotées d'une vie propre, dédiée à la prédation sous toutes ses formes, plaisir ou meurtre. D'où question. Shakespeare avait-il peur des femmes ? On comprend que les commentateurs aient été tentés d'envisager cette possibilité. Le grand écrivain irlandais du XXe siècle, James Joyce, affirme tout net que Shakespeare n'était terrorisé que par une seule femme, la sienne, pauvre Anne Hathaway. Si nous ne savons rien du tempérament d'Anne Hathaway, on a en revanche quelques informations sur les dispositions de William Shakespeare. L'un de ses détracteurs, un certain Green, le présentait comme un arriviste arrogant et sans scrupules. Mais il est bien le seul à brosser un tel portrait. Les amis de Shakespeare, ses collègues, ses éditeurs, le présentent au contraire unanimement comme un homme aimable et de bonne compagnie.
Henry Chittle, qui le défendit, se plaît à rapporter sa droiture et son honnêteté. Il est, pour tous ses amis, le « gentle Shakespeare », comme l'appelle Ben Jonson, qui, dans l'un de ses ouvrages, reprit plus tard à son compte le jugement de Chittle. « J'aimais l'homme, disait-il. Il était en vérité d'une nature ouverte et franche. il y eut toujours en lui davantage à louer qu'à pardonner. Ses premiers biographes, qui recueillirent des souvenirs directs et rapportés, sans exception, soulignent la gentillesse de son caractère.
Notons qu'en langue anglaise, « gentle » signifie plus que « gentil ». Le mot désigne un composé de distinction, de charme et de douceur. On serait tenté, à la lumière de ces informations, de voir en Shakespeare un homme doux et soumis qu'aurait terrorisé une ou plusieurs femmes perçues par lui comme de redoutables méduses, prêtes à le pétrifier sur place. Tentation d'autant plus séduisante que le dramaturge s'arrange souvent pour donner aux quelques rares filles gentilles de son répertoire des destins épouvantables. Hamlet, comme Roméo et Juliette, sont deux de ces pièces qui, une fois n'est pas coutume, nous offrent des personnages féminins attendrissants. Le cas d'Hamlet est particulièrement éloquent. Rappelons l'intrigue. Le père d'Hamlet, qui est roi du Danemark, vient de mourir. Il apparaît en songe à son fils pour lui dire qu'il a été tué par son frère, qui est donc devenu roi, à sa place, par le meurtre. Hamlet, pour venger son père, simule la folie. Voyant cela, le père d'Ophélie, dont Hamlet est amoureux, refuse de lui donner sa fille. Elle devient folle à son tour et met fin à ses jours en se jetant dans une rivière. Dans ce drame, comme d'ailleurs dans celui de Roméo et Juliette, l'amour légitime est rendu impossible par une décision familiale. Dans les deux cas, les relations entre les amants sont exclusivement platoniques. Shakespeare savait décrire les délices de la chair sous ses aspects les plus crus, on l'a vu avec Vénus et Adonis. Rien de tout cela dans les histoires qu'il nous présente comme modèle de l'amour véritable. La chasteté y semble en déterminer le cours, quitte à conduire les protagonistes à la mort. Ophélie, devenue folle, n'apparaît plus que pour donner à l'amour le visage d'un désir à jamais impossible à assouvir. Ainsi, Ophélie, comme d'autres gentilles et innocentes jeunes femmes de l'œuvre de Shakespeare, comme Cressida, dans la pièce Troïlus et Cressida, comme Blanche de Castille, héroïne du drame Le Roi Jean, eh bien toutes ces jeunes filles sont sacrifiées à l'intérêt politique ou à celui de la famille, et dans tous les cas, l'histoire se termine mal. L'amour vrai, l'amour pur, est donc impossible. N'y a-t-il aucun espoir de nouer avec une douce et tendre jeune femme un lien qui se termine autrement que par la mort ? Pour Shakespeare, cette malédiction apparaît clairement comme la conséquence de la dépravation des femmes. La pureté, si elle existe, est condamnée à mort par le sexe. Il n'en faut pas plus pour se convaincre que l'acte sexuel apparaît pour Shakespeare comme le vestibule de l'enfer. Il serait en cela bien en phase avec le courant puritain de son époque, qui entretenait à l'égard des femmes une méfiance si grande qu'on était prêt à faire fi de l'Évangile pour prouver leur intime complicité avec le diable.
La sensualité débridée qu'on prête volontiers aux femmes est la source de tous les dangers. Elle épuise le partenaire, le place sous l'emprise de la volupté et l'expose aux trahisons répétées s'il n'est pas à la hauteur de la tâche. Depuis la faute d'Ève, les femmes entraînent l'homme dans le péché grâce à leur pouvoir de séduction.
Qu'il ait nourri ou non son inspiration avec ses propres affaires domestiques, il reste que Shakespeare s'est certainement fait l'écho des interrogations de son temps. On ne peut pourtant pas en déduire pour autant que toutes les femmes de l'époque étaient des mégères. Une pièce de théâtre n'est pas un document historique.
Le miroir du théâtre ne peut pas, ne doit pas servir de document historique. Autant conclure d'un portrait d'Arcimboldo que les Italiens de la Renaissance avaient tous le nez en citrouille.
D'aucuns ont donc fini par envisager l'idée que Shakespeare était simplement homosexuel. Certaines de ses héroïnes cultivent l'ambiguïté d'une manière étonnante, telle Viola dans La Nuit des Rois, qui formule ses vers particulièrement parlants. « Comme homme, j'aime comme une femme, et comme femme, je suis aimée comme un homme ». confidence pour le moins troublante et singulièrement avant-gardiste eu égard à la controverse sur le genre qui passionne notre société actuelle. Homosexuel ou non, il suffit de lire dans un de ses sonnets demeurés célèbres les vers que Shakespeare adresse à une amoureuse anonyme pour se convaincre qu'il ne doit pas trop aimer les femmes.
Les yeux de ma maîtresse n'ont rien du soleil. Le corail est bien plus rouge que le rouge de ses lèvres. Si la neige est blanche, alors sa poitrine est beige. Si les cheveux sont des fils d'or, ce sont des fils noirs qui poussent sur sa tête. J'ai vu des roses de Damas, rouges et blanches, mais je ne vois aucune de ces roses sur ses joues. Et certains parfums donnent plus grand plaisir que l'haleine fétide de ma maîtresse.
Pour trancher une question devenue décidément trop ardue, certains se sont convaincus que Shakespeare était une femme. Après tout, il n'y a qu'une femme pour se montrer aussi féroce envers ses semblables. Et puisqu'on n'a presque rien sur la vie du dramaturge, autant montrer de l'audace en avançant les hypothèses les plus hardies. L'écrivaine Virginia Woolf a en son temps coupé court radicalement à cette idée saugrenue. Du temps de Shakespeare, il aurait été absolument impossible à n'importe quelle femme d'écrire les pièces qu'a écrites Shakespeare, affirme-t-elle. Avant sa mort, Shakespeare avait demandé à ce que l'on grave sur sa tombe un quatrain demeuré célèbre qui ajoute au mystère dont s'entoure sa vie.
Mon ami, pour l'amour de Jésus, abstiens-toi de creuser la poussière enfermée ici. Béni soit celui qui épargne ses pierres, et maudit soit celui qui déplace mes os.
Les Anglais, avec un humour typiquement britannique, ont émis l'hypothèse que Shakespeare, en interdisant qu'on ouvre son tombeau, voulait avant tout s'assurer que l'on n'y déposerait jamais, à côté de lui, la dépouille de sa femme. C'est la fin de ce double épisode consacré à Shakespeare et les femmes. Si cette plongée dans l'histoire vous a plu, parlez-en autour de vous et faites-moi part de vos commentaires sur le groupe Facebook « Au cœur de l'histoire ». Je vous lirai et je vous répondrai. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou la plateforme sur laquelle vous écoutez habituellement vos podcasts. « Au cœur de l'histoire » est une création originale Europe 1 Studio. L'épisode que vous venez d'entendre a été écrit en collaboration avec Jean-Louis Bachelet. La réalisation est signée Xavier Joly. Et si vous voulez aller plus loin, la bibliographie de cet épisode vous attend comme d'habitude sur le site d'Europe 1. À très bientôt.